Réplique, la question du deuil, avec Vincent Delecroix et Philippe Forest. Je dois d'abord une explication aux auditeurs. J'avais annoncé pour aujourd'hui un dialogue entre Hervé Le Bras et Renaud Camus que j'avais intitulé « Le grand déménagement du monde ». Mais nous sommes à un jour du premier tour des élections législatives, le CSA ouvre l'œil et l'oreille, la direction de France Culture a donc souhaité reporter la programmation de cette émission, elle sera diffusée après la bataille, le 24 juin. Et je remercie chaleureusement Vincent Delecroix et Philippe Forest d'avoir accepté l'interversion que je leur proposais et d'avoir accepté donc de venir ce samedi en direct pour parler d'un sujet qui relève de la religion, de la philosophie, de la littérature, de l'expérience de tout un chacun, mais certainement pas directement de la politique. Ce sujet, c'est le deuil. Vous avez publié sur ce thème un très beau dialogue et ce qui est extraordinaire dans cette conversation animée par Catherine Portevin, c'est qu'il s'agit d'un plaidoyer à deux voix pour le deuil. Vous défendez l'un et l'autre le deuil contre la doxa du travail du deuil, contre l'injonction et le besoin de faire son deuil. Qu'y a-t-il donc d'irremplaçable dans cette expérience insoutenable, Philippe Forest?
Je crois que l'expérience du deuil, c'est précisément l'expérience de l'irremplaçable. Et c'est pourquoi on ne peut en parler qu'à la première personne du singulier. C'est ce que je fais dans ce livre, comme dans tous les autres, en rappelant donc, comme je l'ai raconté dans mon premier roman, il y a 20 ans, L'Enfant éternel, la disparition de ma fille morte à 4 ans du cancer. Il me semble que il faut insister sur cette dimension subjective, parce que c'est par elle qu'on accède à la vérité. Perdre quelqu'un, ça n'est pas perdre quelque chose ou perdre n'importe qui, n'importe quoi, mais c'est perdre une personne particulière et du coup éprouver ce que chacun d'entre nous a de particulier, d'irremplaçable, d'insubstituable, à une époque où on produit du vivant à la chaîne, on évacue les vivants et on les considère comme susceptibles de prendre la place des autres. Voilà, donc c'est pour ça qu'à mon avis, il y a quelque chose dans l'épreuve du deuil qui concerne davantage que le face-à-face avec la mort et qui nous amène à réfléchir sur la singularité même menacée de l'expérience individuelle.
Oui, et vous rencontrez dans la réflexion qui est la vôtre ce texte célèbre de Freud, Deuil et mélancolie, et vous dites que, Philippe Forest, que l'analyse de Freud reste sous-tendue par l'idée d'une substituabilité de l'être humain. Ce qui a été perdu peut se retrouver à la condition que le désir réinvestisse un nouvel objet. Et finalement, ce discours de Freud qui oppose le deuil à la mélancolie, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que on pensait que le deuil, c'est la forme paroxystique de la mélancolie. Et Freud nous dit non. Le deuil, c'est le travail qui nous permet d'échapper à la mélancolie, mais avec cette idée sous-jacente qu'un être peut en remplacer un autre.
Oui, et c'est ce qui m'a toujours rendu un peu réfractaire à l'égard de ce texte et surtout à l'égard des utilisations qui en ont été faites, moins par les psychanalystes, encore que par une certaine doxa psychologisante, qui nous invite donc précisément à remplacer la personne perdue par une autre personne. Mais je dois avouer que, justement, c'est l'un des intérêts du dialogue, l'intervention de Vincent Delecroix m'a permis un peu de réviser le jugement sévère, disons, que je portais sur ce texte et d'ouvrir les yeux sur la part de tragique authentique qu'il y a, bien sûr, dans la pensée freudienne et dans ce que la psychanalyse a produit de meilleur après Freud.
Oui, donc Vincent Delecroix va nous aider peut-être à problématiser les choses. Il est vrai cependant que certaines phrases peuvent faire sursauter dans ce texte si célèbre de Freud, et notamment celle-ci. on peut observer d'une façon générale que l'homme n'abandonne pas volontiers une position libidinale, même lorsqu'un substitut lui fait déjà signe. Vincent Delecroix.
Oui, c'est un texte très important et ça fait partie des légers désaccords qui sont nécessaires à une conversation réussie avec Philippe. Et c'est vrai que ce texte, il est choquant. Je ne vais pas dire que Freud le voulait tel, mais quand il s'est emparé de ce sujet-là, qui était, je vais peut-être y revenir, qui était relativement nouveau dans ses préoccupations par rapport à ce qu'il faisait auparavant, le type de psychologie, une métapsychologie qu'il prétendait faire là, était relativement nouveau. Et donc il manipulait un objet qui n'était pas non plus extrêmement familier à sa pratique jusqu'alors. Mais comme Philippe l'a souligné, c'est surtout l'usage et les lectures biaisées qui ont été faites de ce texte, notamment un peu rapide en raison du titre et de l'alternative qui semble proposer entre un deuil raté qui devient mélancolie et puis un deuil réussi, c'est-à-dire un deuil qui mène au-delà du deuil tout de suite, puisque c'est ça le travail du deuil tel qu'il est vulgarisé. C'est soyez en deuil mais le moins possible. Le deuil c'est simplement la manière de se sortir du deuil. Un peu obnubilé par cette fausse alternative, on a tendance à considérer que bon, Freud fait partie de cette filiation de la psychanalyse qui a un côté normatif et même socialement normatif, c'est-à-dire bon, la société réclame que nous ne soyons pas trop mélancoliques, que nous ne soyons pas attachés à l'objet perdu, nous devons nous réinvestir dans la vie sociale, et ça fait partie de cette vision qui n'est pas fausse, hein. D'une psychanalyse très normativiste de ce point de vue-là. Si on regarde un peu plus près ce texte-là, et si à partir de ce texte-là, on regarde l'ensemble du champ psychanalytique de ce que Freud essaie de tracer, alors ça, les choses changent beaucoup. D'abord, bon, c'est un autre petit point de désaccord ou de différence avec Philippe. La question de l'insubstituable est pas, me semble-t-il, elle est centrale évidemment, elle est centrale pour le deuil, mais elle a tendance à oblitérer d'autres questions. Notre conversation a permis justement, je pense, de non pas de corriger, mais d'affiner cette idée-là, parce qu'en même temps, nous sommes dans une époque où on proclame aussi tout le temps de l'insubstituable. Chaque personnalité est érigée au pinacle de sa propre différence.
Mais vous dites moi en même temps que d'autre. La chose la plus insupportable à la société actuelle, c'est précisément qu'il y ait de l'insubstituable.
Alors c'est ça qui est très étrange, et je pense que c'est ça sur lequel travaille notre conversation, c'est l'espèce de tension, de contradiction qu'il y a entre une affirmation explicite du caractère irremplaçable des individus, surtout pas la masse, surtout les individus, etc., et en même temps une logique de substituabilité permanente qui fait que un individu doit être remplacé par un autre.
Alors cette logique est quand même à l'œuvre, sinon dans tout le travail, dans tout ce qu'écrit Freud, mais du moins dans ce texte, puisque c'est lui qui nous a appris à considérer le deuil non comme l'état d'affliction provoqué par la mort d'un proche, mais comme le travail précisément destiné à nous sortir de cet état. Autre citation, je crois qu'il n'y aura rien de forcé à se représenter le travail qu'accomplit le deuil de la façon suivante. L'épreuve de réalité a montré que l'objet aimé n'existe plus et dicte l'exigence de retirer toute la libido des liens qui la retiennent à cet objet. Alors, après, il y a eu la Vulgate. La leçon a été tellement entendu que maintenant on parle sans cesse de faire son deuil, et l'on fait son deuil aujourd'hui un peu comme on fait ses besoins, on se vide, on se déleste du mort afin de réintégrer dans les meilleures conditions et dans les plus brefs délais le monde trépidant des vivants, et cela repose sur ce principe métaphysique quand même de la substituabilité. Et là je vais citer un auteur parce que c'est Kundera. C'est le travail inverse qui est à l'œuvre dans ses romans, et notamment ce personnage extraordinaire du livre du rire et de l'oubli, Tamina. Elle est serveuse dans un petit café d'une ville de province à l'ouest de l'Europe. Elle a émigré avec son époux, celui-ci meurt, et à ce moment-là, elle résiste de tout son être à l'idée de faire son deuil pour respecter en quelque sorte son deuil, et elle est face à cette trahison qui menace, l'oubli, les souvenirs s'estompent, et donc elle combat pied à pied l'infidélité de sa mémoire, contre précisément tout ce à quoi nous engage une époque à partir d'une lecture, sinon fautive, du moins en tout cas partielle et partiale de Freud. Philippe Forest.
Oui, et c'est aussi dans ce roman qu'il y a cette scène magnifique de la mort du chien autour de laquelle le couple se réunit, il me semble bien.
Et ça, c'est dans le...
Ah pardon, c'est dans la légèreté de l'être. Voilà, oui,
ah,
effectivement.
Oui, c'est mais le chapitre intitulé Le sourire de Karénine.
Voilà. Et c'est une mort insignifiante que la mort d'un chien. Mais pourtant, elle devient le signe, justement, de ce dont vous parliez et qui nous fait témoin de cette insubstituable qui donne son sens et sa valeur à l'existence humaine. Moi, je crois que la littérature, et c'est pour ça que c'est par le roman que j'ai choisi de m'exprimer d'abord, la littérature, elle est là pour témoigner de cette fidélité et pour devenir le lieu justement où on observe aussi en soi-même ce travail de l'oubli qui est fatal, qui est inévitable, mais contre lequel il s'agit et avec lequel il s'agit d'écrire, je crois.
Oui, d'ailleurs, vous, l'un de vous, je crois que c'est vous, Philippe Forest, écrit ou dit que c'est peut-être cela, la littérature, c'est vous, Vincent Delecroix, fabriquer des effigies, des personnages, faire le portrait des absents, c'est un art du deuil. La littérature, c'est un art du deuil.
Oui, c'était. Il y a un magnifique. Théoricien littéraire, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, ou sémiologue, Louis Marin, qui a beaucoup travaillé là-dessus, sur la substituabilité du portrait à la figure présente, et qui a travaillé justement sur cette, là au bon sens du terme, sur le travail du deuil qui caractérise la production des images, et des images fictives, des fictions, et l'articulation très très étroite entre la production de la fiction et la mort, et vraiment le rapport à la mort. Et je voudrais pas orienter systématiquement la conversation ou remettre la conversation sur Freud, mais une dernière fois là-dessus, parce que c'est lié. Chez Freud, la totalité de l'expérience est polarisé par ce problème-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui devient substituable et qu'est-ce qu'on produit en réponse à, j'allais dire, au principe de réalité, au déni du désir présenté par le principe de réalité, c'est-à-dire à l'absence, au fait que l'objet s'éloigne. Toute la psychanalyse, et pas simplement deuil et mélancolie, toute la psychanalyse de Freud est obsédée par ce seul problème-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous sommes capables, comment nous sommes capables de négocier l'absence, non pas, contrairement à ce qu'en dit la Vulgate, pour l'oublier, non pas pour, parce que sinon on comprendrait pas ce que c'est que le refoulement dans la psychanalyse, ou l'identification du refoulement, non pas pour oublier, mais pour, encore une fois, puisque nous sommes hantés par nos morts, puisqu'ils sont là, et que nous n'avons certainement aucun intérêt à nier leur présence, qu'est-ce qu'il faut faire, ou qu'est-ce que nous faisons, quel type d'effigie, quel type d'image, de substitution, il y a des pages magnifiques de Benjamin là-dessus aussi, quel type d'image sont susceptibles de capter la présence à la fois familière, peut-être l'inquiétante étrangeté qu'ont les morts autour de nous, mais capter cette présence et proposer au désir, à la mélancolie aussi, proposer au désir, et ça n'a rien d'économique, enfin, ça n'a rien d'économique au sens où, voilà, il s'agirait de consoler, d'offrir une voie de réintégration, mais quelles sont ces images, ou quels sont ces substituts, ces effigies, ces portraits, ces fictions nécessaires à, un rapport peut-être dans la distance, peut-être dans la proximité, mais un rapport réglé, mouvant, plastique, historique aussi, à l'absence, à la perte, à l'objet perdu.
Alors, là, on n'est plus du tout, si je vous comprends bien, dans la perspective du travail du deuil, parce qu'il ne s'agit pas de remplacer, il s'agit d'essayer au fond de vivre avec les morts.
Absolument, et c'est l'objet. C'était vraiment le centre de notre conversation avec Philippe. C'est l'objet. C'est pour ça que Philippe insiste à très juste titre sur le, d'après sa propre expérience d'écriture, sur le travail de l'écriture de ce point de vue-là. C'est-à-dire ce qui travaille dans l'écriture à produire ces images.
Philippe Forest.
Oui, l'image, comme le dit Vincent, est ambivalente. C'est Blanchot qui l'a bien expliqué en montrant que l'image est à la fois signe d'une présence et signe d'une absence. Si on pense tout simplement à la stèle sur un tombeau ou à la photographie que l'on conserve, ou alors par extension au tableau ou au roman, bien sûr, cette image nous rappelle la personne évoquée, mais nous rappelle en même temps qu'elle est absente et qu'elle n'est plus présente que sur le mode de l'image qui la remplace.
C'est le fragment de Pascal. Portrait porte plaisir et déplaisir. Le portrait porte plaisir et déplaisir. Moi, j'avais travaillé là-dessus sur Poussin, sur l'autoportrait chez
Poussin.
Oui, j'ai
écrit un livre sur Poussin.
Mais l'ambivalence que reconnaît Pascal dans ce très court fragment, plaisir et déplaisir, mais c'est exactement ce autour du quoi tourne notre conversation, c'est-à-dire le portrait du mort. Qu'est-ce que c'est que le portrait du mort ?
Alors, justement, donc pour poursuivre dans ce sens et illustrer cette très belle définition que vous donnez, Vincent Delecroix, de la littérature comme art du deuil, je vais convoquer un autre auteur, après Kundera, qui est d'ailleurs, lui, présent dans votre conversation, Barthes. D'abord, ce journal de deuil qu'il a écrit l'année où il a perdu sa mère, et cette phrase, impossibilité, indignité de confier à une drogue, sous prétexte de dépression, le chagrin, comme si c'était une maladie, une possession, une aliénation, alors que c'est un bien essentiel, intime. Et puis, ce qui est peut-être son plus beau livre, La Chambre Claire, où il parle justement de sa mère, et il dit « Je ne veux pas réduire ma mère à la mère ». Certes, il exerçait la fonction maternelle, mais ma peine, dit-il, vient de qui elle était. Et c'est parce qu'elle était qui elle était que j'ai vécu avec elle. À la mère comme bien, elle avait ajouté cette grâce d'être une âme particulière. Et ce que j'ai perdu, donc, ce n'est pas une figure, la mère, mais un être. Et pas un être, mais une qualité, une âme. Et là, nous retrouvons le thème dont nous sommes partis. Non pas l'indispensable, mais l'irremplaçable. Et d'ailleurs, il dit même de la photographie que ça pourrait être la science impossible de l'être unique. Mais après tout, ce qui vaut pour la photographie vaut peut-être pour la littérature, comme art du deuil, justement.
D'autant plus que Barthes, et notamment dans ses derniers textes, a toujours essayé de penser le rapport de l'image au texte ou de la photographie au roman, notamment en essayant de montrer comment le roman doit recueillir, pour les raconter, des images qui viennent de la vie et qui sont en rapport avec elle. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de proprement admirable dans la solitude et dans le courage, disons, dont Barthes fait preuve dans ses textes, en se réclamant d'une pensée qui l'oppose à toute la société, au monde entier, en fait. Et notamment dans le refus, justement, de la médicalisation du chagrin. C'est quand même assez étonnant. On parle partout de dépression, tout le monde est déprimé, mais plus personne n'est désespéré. Alors que dans le désespoir, il y a un accès à la vérité qui est justement celui que Barthes revendique dans ses textes. Ça m'a d'autant plus frappé que, bien sûr, moi j'avais lu La Chambre Claire il y a longtemps, enfin pas tout à fait au moment de la sortie, mais il y a quand même longtemps. Et en revanche, le Journal du Deuil a été révélé très récemment. Et donc, Barthes n'a pas voulu que ce texte soit publié, mais en même temps, il informait déjà La Chambre Claire, et il dit des choses qui sont admirablement justes pour le présent, parce que disons que les choses n'ont pas cessé de se dégrader depuis 20 ou 30 ans, et que cette espèce d'idéologie positive, de la consolation, du réconfort, etc., contre laquelle Barthes parle, malheureusement, elle est devenue hégémonique.
Alors c'est intéressant d'ailleurs, parce que dans votre livre, il y a ce plaidoyer pour le deuil, contre contre cette idée de faire son deuil pour, en quelque sorte, se débarrasser du mort. Mais il y a aussi, chez vous deux, une réflexion critique, justement, sur cet autre thème très antérieur à Freud et au travail du deuil, la consolation. Hein, vous êtes, vous prenez vos distances aussi avec l'idée de consolation, Vincent Delecour.
Oui, c'est d'autant plus, je ne sais pas si c'est périlleux, mais c'est d'autant plus délicat, par exemple, quand on exerce la philosophie, que depuis Boès, en tout cas, elle est assignée à un exercice de consolation. Là encore, Boès, qui en parlait, il faudrait le relire attentivement, parce que il y a une structure néoplatonicienne derrière qui explique que la philosophie peut être consolation, et surtout une structure religieuse qui explique que la philosophie peut être effectivement une consolation. Mais là où nous nous accordions, c'était effectivement pour considérer que le caractère l'inconsolable était, j'allais dire, un signe de l'expérience du réel, un signe de l'expérience... J'aime pas tellement ce mot-là, authentique, mais un signe que nous étions en face de quelque chose qui a la consistance du réel. Toute consolation vise, encore une fois, à pratiquer de la substitution, vise évidemment à une normativité sociale, si elle n'est pas, au contraire, cultivée d'un point de vue proprement philosophique. Donc il y a effectivement cette espèce de d'agacement qu'on éprouvait l'un comme l'autre devant les paroles de consolation, et surtout ce qu'elle voulait faire en réalité, ces paroles. Mais en revanche, quelque chose d'extrêmement intéressant dans le caractère impuissant de ces paroles de consolation. En revanche, ce qui est intéressant dans la consolation, c'est qu'elle échoue. Et c'est ça qui, je pense, nous a intéressés. C'est pas simplement de se rendre inconsolable, ça veut rien dire, ce serait absurde de dire ça. Mais en revanche, concevoir et regarder l'échec du langage, par exemple, ou de la parole, dans les paroles de consolation, est, si je puis dire, une mine de renseignements sur la manière dont nous nous rapportons au monde et dans la manière dont nous nous rapportons les uns aux autres. Devant le deuil de quelqu'un d'autre, ou devant le chagrin, plutôt, devant quelqu'un d'autre, nous éprouvons effectivement une limite absolue du langage. Et, enfin, tout un chacun en a fait l'épreuve devant une douleur fracassante liée à la perte. Nous faisons immédiatement non seulement l'épreuve de l'impuissance à soutenir l'autre, mais dans cette impuissance même, nous faisons l'épreuve de ce que nous devons les uns aux autres. Et c'est ça qui est extraordinaire dans l'expérience inverse de la consolation. C'est que d'un seul coup, ce qui apparaît, c'est pas simplement l'opacité des consciences les unes par rapport aux autres, pas simplement l'infinie distance que nous éprouvons douloureusement vis-à-vis de l'ami, dans laquelle nous paraissons immédiatement vulgaires, absurdes,
à côté de la plaque,
même indifférents. C'est horrible de vouloir consoler. C'est absolument horrible, mais en même temps, l'amitié réclame. Et c'est cette injonction contradictoire qui s'éprouve dans l'impuissance à parler qui devient, encore une fois, la source d'une expérience nécessaire à travailler en philosophie, en littérature.
Et dans le livre Philippe Forest, vous avez cette phrase terrible que vous avez dû entendre. « Ça va aller, c'est la pire chose qu'on puisse dire à quelqu'un qui est en deuil. » Et il est vrai que face à quelqu'un qui est en deuil, on est un peu démuni et on peut proférer cette banalité scandaleuse.
Oui, toutes les maladresses dans un tel contexte sont compréhensibles, mais c'est vrai que dire à quelqu'un qui est en deuil « ça va aller », c'est une manière de nier la profondeur et la vérité du chagrin qu'il éprouve. C'est pourquoi je dis dans le livre aussi que la meilleure chose qu'on puisse dire à quelqu'un en deuil, et je prends cette idée dans Kierkegaard, c'est désespère, parce qu'en fait, c'est dire à quelqu'un qui souffre qu'il est dans son droit et dans le vrai à travers la souffrance qu'il éprouve, c'est reconnaître justement l'expérience qu'il vit.
S'agit-il de l'accompagner
oui.
dans la formulation de sa douleur? plutôt oui, oui. que ce ça va aller ou
oui, c'est très brutal, c'est très brutal
maladroite.
Ça va aller. C'est un jeu de mots qui ne vaut peut-être pas grand-chose, mais je dis que la société de consommation dans laquelle nous vivons est aussi et peut-être surtout une société de consolation, c'est-à-dire qui justement vise à proscrire l'expérience du mal, de la souffrance, du tragique.
Alors en même temps, c'est paradoxal. Nous vivons dans une société de consolation, mais c'est aussi une société post-religieuse. C'est la société du Deus absconditus. Si la foi existe, c'est la foi pascalienne, fondée sur une terrifiante, une abyssale inquiétude. Et justement, donc c'est pourquoi, comment se fait-il que notre société choisisse la consolation alors qu'elle n'a plus ce moyen de consoler qu'était la religion? Une autre vie vous attend. C'est ce que disent les prêtres dans les enterrements. Dieu l'a rappelé auprès de lui. Donc, et en même temps, est-ce qu'on peut réduire la religion à cette consolation, Vincent Delecroix?
Certainement pas. Et en tout cas, il faut la distinguer de. Enfin, j'allais dire, il faut distinguer les rituels du deuil structurés par là ou les traditions religieuses et les promesses de consolation. Et d'ailleurs, qui a fait l'épreuve j'allais dire malheureusement ordinaire d'obsèques je sais pas à l'église ou à la synagogue éprouve là encore les limites cette fois-ci du langage religieux et effectivement du langage religieux actuel, c'est-à-dire bon, qui croit encore qu'il faut se réjouir parce que désormais il est confié certes à la terre mais qu'il est confié aussi à une vie meilleure, même l'officiant ne semble pas y croire, à juste titre d'ailleurs, mais il y a là aussi moi j'ai des souvenirs vifs de vraiment pas de scandale, mais en tout cas de malaise intense devant cette parole extrêmement, et on revient là-dessus dans la conversation, sur des paroles qui peuvent apparaître, mais j'allais dire à une distance infinie de la douleur qu'éprouvent les gens dans cette occasion-là. Et ça aussi, c'est un peu comme la consolation tout à l'heure, ça aussi pourtant, et dans le plus grand péril croit ce qui sauve, ça aussi, il y a quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire la distance du langage religieux, de la parole religieuse, l'extrême distance très choquante que certaines traditions religieuses manifestent à l'égard de cette douleur. Alors bien sûr, on peut l'interpréter comme une indifférence ou comme une consolation dérisoire, mais quand on dit « laissez les morts enterrer les morts et les vivants avec les vivants », on a l'impression que bah, finalement l'époque a suivi cette injonction « oui, laissons les morts et dépêchons-nous de vivre », mais il y a dans le langage religieux ici des ressources qui sont complètement différentes. Justement, complètement différente. En particulier, dans cette espèce de, non pas de déni de la mortalité, etc., mais au contraire, dans cette affirmation de l'expérience indépassable de la mort.
Alors, à cet égard, je voudrais vous citer un auteur, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, C.S. Lewis, le grand auteur catholique. C'est un livre pour vous deux, je crois, si vous ne l'avez pas lu. Un opuscule même, absolument admirable. Je ne crois pas que la traduction française existe. A grief observed, un chagrin observé. Et le chagrin, c'est celui qu'il a éprouvé à la mort de sa femme. Il s'est marié. C'était un vieux professeur célibataire endurci, sarcastique, qui faisait peur à tout le monde, qui lui-même sans doute devait avoir peur des gens. Toujours est-il qu'il s'est marié tardivement, il est tombé éperdument amoureux de sa femme. Elle est morte. Et c'était un homme très catholique. Et il y a cette phrase, et à un moment il y a cette phrase, « Parlez-moi de la vérité de la religion, et je vous écouterai avec joie. Parlez-moi du devoir religieux, et je vous écouterai avec soumission. Mais ne venez pas me parler des consolations de la religion où je soupçonnerai que vous ne comprenez pas. » Que vous ne comprenez pas. Et il y a, à un moment donné, une révolte aussi, chez ce catholique, contre Dieu. Un moment de haine de celui qu'il appelle le sadique cosmique, une haine qui s'apaise à la fin du livre. Mais il y a quelque chose chez ce catholique qui est insupportable, c'est précisément la définition de la religion comme consolation. Philippe Lorest.
Oui, mais justement, la grandeur des vraies religions, et notamment de la religion chrétienne, c'est aussi de faire leur place à la révolte et au désespoir. Enfin, on sait bien sûr le mot du Christ sur la croix, encore qu'on en ait donné beaucoup d'interprétations. Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Moi, je crois que la mort, elle appelle la révolte. Et ce que vous dites me fait penser à ce passage célèbre des frères Karamazov de Dostoïevski, sur lequel j'ai réfléchi il y a quelques années dans un livre qui s'appelait Le roman infanticide, lorsque Ivan s'oppose à Alyosha en lui disant que il refuserait d'être sauvé si c'est par un dieu, d'où l'expression de sadique cosmique que vous avez utilisé en empruntant Lewis. Ivan dit qu'il refuserait d'être sauvé par un dieu qui accepte la souffrance des enfants et la mort des créatures innocentes, et que même s'il avait tort, il refuserait le salut. Ça me semble être l'expression la plus puissante de cette révolte contre la religion, qui justement n'accepte pas que le salut, même le salut et la vérité, puissent être au prix de la souffrance et de la mort.
Enfin,
propos qu'il faudrait compléter en disant que le génie de ces traditions religieuses, c'est d'avoir intégré justement ce scandale, et surtout pas de prétendre le dépasser. Et ça, on en a un peu parlé dans le livre au cours de notre conversation. Je pense au livre de Job, évidemment, qui est si fondateur pour ces traditions, c'est-à-dire qui intègre dans le texte sacré quelque chose qui est bien comme une révolte à l'égard de Dieu, devant son injustice, son caractère incompréhensible, et qui est exactement contemporain d'un deuil en train de se faire, parce que Job, c'est ça, hein, il a perdu sa femme, ses enfants, et il est surtout confronté à la parole de ses prétendus amis qui viennent lui expliquer que la religion console, ou qui cherche à lui dire, mais bon, ceci s'explique, tu as du péché, et puis dis-toi qu'ils vont mieux. Et Job s'est obstiné en disant non, j'ai perdu ce que j'ai perdu, je l'ai perdu par la faute de Dieu. Et intégrer ce scandale, nous sommes tous les deux des lecteurs de Kierkegaard, donc sensibles évidemment à ce caractère, j'allais dire, pas auto-immune de la tradition religieuse, mais à ce caractère vraiment scandaleux qu'intègre la tradition religieuse, au contraire de le dépasser. Alors bien sûr, il y a les perspectives de la vie future, c'est incontestable, encore que, comme vous le savez, dans d'autres traditions, elles ne soient pas si évidentes que ça. Bien sûr, il y a la rédemption, bien sûr qu'il y a le salut, mais en aucune manière, en tout cas dans le cœur de ces traditions-là, cette promesse de salut, cette promesse de rédemption, gomme, efface l'expérience fondatrice de la perte et du caractère absolument scandaleux de la mort de l'enfant.
Et elle peut d'autant moins l'effacer pour ce qui concerne le christianisme, que comme il est dit dans Polyeucte, Dieu même a craint la mort, et on peut même dire que Dieu est mort, bien avant le constat de Hegel puis de Nietzsche. Dieu est mort sur la croix. Il y a d'admirables pages de Peggy sur l'épreuve de Jésus, qui fait qu'il est un premier des saints, mais certainement pas un ange. Il y a cette phrase si émouvante, si extraordinaire, « mon père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il y a aussi l'extraordinaire tradition iconographique, c'est-à-dire les descentes de croix, des mises au tombeau. Toute la peinture occidentale religieuse est obsédée par la mort et même par le cadavre. Il y a une ambiguïté inouïe de la religion qui est une promesse d'au-delà, une autre maison, la maison du ciel par opposition à notre maison sur la terre, et qui en même temps nous met sans cesse face à la mort dans ce qu'elle a de plus atrocement concret, Philippe Forest.
Oui, c'est pourquoi cette dénégation du tragique dont nous parlons, elle me semble moins le fait de la religion ou de ce qu'il en reste que des religions de substitution que la société moderne fait proliférer aujourd'hui. Donc moi, tout en étant athée, je me sens parfois plus proche de ce que certains chrétiens disent de la mort que de ce que j'en entends à la télévision ou de la part de certains prétendus philosophes, disons.
Oui, alors, je voudrais là maintenant un peu élargir le thème, d'ailleurs, en fonction de la lecture que j'ai faite de votre livre. Il y a l'expérience propre du deuil, et il y a aussi cette réalité ontologique qui peut nous amener à penser, et je crois que vous le dites, Vincent Delecroix, d'une certaine manière, que tout individu est un survivant, et à cet égard, innocent et coupable à la fois. C'est-à-dire que il est là, nous survivons, et peut-être que survivre, c'est prendre la place d'un autre. Vincent Delecroix.
Je pense que vous touchez là, effectivement, à la fois quelque chose... certainement pas d'intemporel dans la condition humaine, puisque au contraire c'est très historique, mais quelque chose qui est caractéristique de notre condition actuelle. C'est-à-dire vraiment, jamais à ce point peut-être nous avons pris conscience, ou nous avons l'occasion de prendre conscience que nous survivons toujours à quelqu'un, ou que nous sommes toujours en état de survivant. Je pense à un très beau texte de Gunther Anders, je crois que des années 60, qui commence ainsi, nous autres survivants. Alors évidemment, ça renvoyait à cette génération qui avait survécu à l'extermination, aux deux guerres mondiales, etc. Mais ça, puisque c'était un penseur de l'ère atomique aussi, ça impliquait le fait que nous avions potentiellement dans notre horizon d'expérience la mort des autres et même la mort totale des autres. Pas seulement la nôtre, possible, comme on dit souvent que effectivement nous avons conscience de notre mortalité, ou nous aurions conscience de notre mortalité, mais c'est surtout celle des autres. C'est-à-dire ce que Ricoeur aussi, dans son magnifique texte inachevé des notes sur la mort et sur le deuil, cette idée, cette expérience de pensée que nous, d'une certaine manière, nous sommes au bout d'un moment toujours amenés à faire. C'est-à-dire que l'épreuve de notre existence se fait dans l'épreuve de notre existence comme survie. Nous touchons à quelque chose qui est vraiment l'expérience propre de la vie elle-même comme survie. C'est-à-dire le fait que nous sommes, sinon en remplacement de quelqu'un qui est mort, sinon en occupant sa place, il y a des textes magnifiques là-dessus, sinon donc en occupant la place libérée comme par un autre, en tout cas toujours en état potentiel de survivre à l'autre.
Alors, parmi les textes magnifiques dont vous parlez, je voudrais en citer un de Lévinas dans Éthique comme philosophie première, parce que c'est la réponse de Lévinas au Dasein heideggerien, être là. Crainte pour tout ce qu'au monde existait, malgré son innocence intentionnelle et consciente, peut accomplir de violence et de meurtre. Crainte qui remonte derrière ma conscience de soi, et quel que soit vers la bonne conscience les retours de la pure persévérance dans l'être. La crainte d'occuper dans le « da » de mon Dasein la place de quelqu'un. Incapacité d'avoir un lieu, une profonde utopie, crainte qui me vient du visage d'autrui. C'est vraiment la définition même de l'individu comme usurpateur, donc comme survivant.
Ah bah, le texte qui à cet égard m'a particulièrement frappé, c'est le petit texte magnifique de Primo Levi, Les naufragés et les rescapés.
Oui, vous en parlez très bien d'ailleurs.
Le survivant, c'est le rescapé qui parle par nécessité au nom du naufragé, mais tout en sachant que, traduisant sa pensée, il la trahit aussi, ce qui fait de tout témoignage un témoignage à la fois nécessaire et coupable, ou en tout cas inquiet. Et il me semble que c'est cette éthique-là qui doit nous concerner dans la vie de tous les jours, mais aussi dans le geste d'écrire, s'il est lié justement à cette fidélité impossible à autrui dont nous parlons.
Alors je voudrais maintenant en venir au dernier chapitre de votre entretien. qui est consacré à un très beau roman de Faulkner, enfin à une phrase de ce très beau roman que l'on connaissait sous le titre Les Palmiers Sauvages, qui a retrouvé son titre originel, Si je t'oublie, Jérusalem, entre le chagrin et le néant, je choisis le chagrin. Vous dites la phrase en anglais aussi, Between grief and nothing, I will take grief. Alors est-ce que vous pouvez commenter l'un et l'autre cette phrase de Faulkner, Philippe Forest?
Mais ce qui m'a frappé lorsque j'ai découvert cette phrase en anglais, c'est justement que la traduction que nous en connaissons, et qui est très célèbre, hein, puisqu'on la trouve même dans À bout de souffle de Jean-Luc Godard, est assez infidèle, ou en tout cas approximative, parce que grief, c'est le chagrin, bien sûr, mais c'est aussi le deuil, et nothing, c'est rien. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que néant. Donc, je propose, à la fin de notre conversation avec Vincent, de revenir au texte originel qui dit plutôt « Entre rien et le deuil, je choisis le deuil », parce que le deuil, disons que c'est toujours mieux que rien, et ça permet d'avoir un rapport maintenu, conservé, perpétué avec la vie et avec la personne que l'on a aimée, la personne dont on se souvient.
C'est
Vincent Delecroix.
Je suis entièrement d'accord, évidemment, avec Philippe, qui a apporté cette phrase à notre conversation. Néanmoins, il y a dans la maladresse de la traduction de Nothing par néant, il y a quelque chose qui recoupe le texte de Levinas que vous avez cité, et notamment l'opposition de Levinas à Heidegger sur ce sujet. Qu'est-ce qui est premier? Est-ce que c'est ma mortalité, mon être pour la mort, ou celui de l'autre? Et entre le chagrin et le néant, c'est vraiment le choix, si je puis dire, entre Levinas et Heidegger. Le néant, c'est Heidegger, c'est-à-dire mon être, mon propre être pour la mort. C'est-à-dire, non pas simplement, ça m'est indifférent, mais le néant, c'est le mien. C'est ma mortalité. C'est ma mortalité qui prime, et toute l'analytique du Dasein est fondée sur la priorité de ma mortalité. Mais le chagrin, c'est la priorité de la mort de l'autre. C'est-à-dire sa vulnérabilité. Et entre, qu'est-ce que vous choisissez? Est-ce que vous choisissez, j'allais dire, cette espèce d'obsession en réalité très superficielle de votre propre mortalité, ou cette hantise de la mort de l'autre et de sa vulnérabilité? Et je pense qu'on était d'accord sur cette idée que, bien sûr, entre le chagrin et le néant, nous choisissons le chagrin.
Nous choisissons le chagrin, et dans le prolongement de ce que vous venez de dire, je voudrais vous lire un texte un peu plus long, mais où il est question de Faulkner. C'est la fin des Testaments trahis de Milan Kundera. Ah, il est si facile de désobéir à un mort. Si malgré cela, parfois, on se soumet à sa volonté, ce n'est pas par peur, par contrainte, c'est parce qu'on l'aime et qu'on refuse de le croire mort. Si un vieux paysan à l'agonie a prié son fils de ne pas abattre le vieux poirier devant la fenêtre, le poirier ne sera pas abattu tant que le fils se souviendra avec amour de son père. Ce n'a pas grand-chose à faire avec une foi religieuse dans la vie éternelle de l'âme. Tout simplement, un mort que j'aime ne sera jamais mort pour moi. Je ne peux même pas dire je l'ai aimé, non, je l'aime. Et si je refuse de parler de mon amour pour lui au temps passé, ce veut dire que celui qui est mort est. C'est là peut-être que se trouve la dimension religieuse de l'homme. En effet, l'obéissance à la dernière volonté est mystérieuse, elle dépasse toute réflexion pratique et rationnelle. Le vieux paysan ne saura jamais dans sa tombe si le poirier est abattu ou non, pourtant il est impossible au fils qu'il aime de ne pas lui obéir. Jadis, j'ai été ému, je le suis toujours, par la conclusion du roman de Faulkner, Les Palmiers Sauvages. La femme meurt, l'homme reste en prison, on lui apporte dans sa cellule un comprimé blanc du poison, mais il écarte vite l'idée du suicide, car sa seule façon de prolonger la vie de la femme aimée, c'est de la garder dans son souvenir. Quand elle eut cessé d'être, la moitié du souvenir cessa d'être également, et si je reste, et si je cesse d'être, alors tout souvenir cessera d'être aussi. Oui, pensa-t-il, entre le chagrin et le néant, c'est le chagrin que je choisis. Philippe Forest.
Oui, c'est. J'ajoute simplement, quitte à introduire une dimension différente, qu'il y a aussi chez Faulkner, et notamment dans ce roman, une manière tout à fait particulière de tourner en dérision le chagrin et le deuil, en même temps qu'il le porte à un paroxysme lyrique. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui serait susceptible de plaire à Kundera aussi, que cette capacité qu'a Faulkner d'aller du lyrique au parodique, de l'exaltation élégiaque à sa mise en question un peu critique et ironique en tout cas.
C'est caractéristique aussi, d'ailleurs, de la temporalité du deuil lui-même, parce oui. que on imagine et on en parle ici comme si c'était, j'allais dire, une temporalité longue, ça c'est sûr, incoative, indéfinie, ça c'est évident, mais qui était jamais susceptible de variation d'intensité et même de tonalité. Je pense que précisément le rapport vivant aux morts est un rapport qui est au contraire frappé d'une inégalité permanente. Et l'imbécilité des injonctions à faire son deuil tient aussi au fait qu'on s'imagine que c'est un processus non seulement linéaire, mais uniforme. Donc vous êtes très malheureux, vous êtes très malheureux, vous êtes très malheureux, et puis à la fin, vous êtes moins malheureux, et puis à la fin, vous êtes vraiment moins malheureux, et à la fin, vous avez tout oublié, vous êtes gai, vous revenez dans la vie. Mais le deuil véritable, qui est interminable, et c'est vraiment, on s'est accordé là-dessus, qui est interminable, est précisément susceptible de toutes les variations de la vie, puisque c'est la vie. Puisque nous vivons comme survivants. Donc c'est la vie. Donc c'est pour ça que la tonalité du deuil peut être elle-même, aussi étrange que ça puisse paraître, peut prendre des tonalités ironiques. C'est aussi une des choses sur lesquelles insiste Freud, paradoxale ou choquante, sur le fait que nous pouvons nous disputer avec le mort, que nous pouvons non pas le congédier, mais être agacé de sa présence ou en rire, ou parce que tout simplement cette épreuve est l'épreuve de l'existence elle-même, et donc traversée par le flux de la vie qui est qualitativement constamment discontinu.
Oui, au chagrin s'ajoute la colère, la violence, le rire, la dérision, tous ces affects sont susceptibles d'être mobilisés et de jouer leur rôle dans ce qui est à la fois une comédie et une tragédie. Une tragédie sans doute plus qu'une comédie, mais qui englobe, comme Vincent vient de le dire, toutes ces dimensions-là de notre être.
Il y a aussi un autre auteur qui est présent et ça m'a surpris. Dans ce livre, et je voudrais, Philippe Forest, que vous en disiez quelques mots, parce que vous lui avez consacré, je crois, une très belle biographie, c'est Aragon.
Ah oui.
Et pourquoi Aragon ?
Le nom d'Aragon surgit parce qu'il y a une scène tout à fait étonnante, que je relate bien sûr dans ma biographie, et qu'Aragon lui-même a relaté dans certains de ses poèmes auparavant. Aragon a fait la guerre à la toute fin de la Première Guerre mondiale, puis il l'a fait à nouveau en 1940, mais en 1918, il est donné pour mort parce que il est enseveli vivant sous les décombres consécutifs à un bombardement dont son unité est l'objet. Et donc on enterre en lieu et place de lui l'un de ses camarades qu'on a pris pour lui parce qu'on a retrouvé les papiers militaires d'Aragon sur le cadavre de ce camarade. Donc, et quelques semaines plus tard, Aragon raconte que il repasse sur les lieux du champ de bataille et il aperçoit un cimetière qui vient juste d'être creusé pour accueillir les dépouilles des soldats morts au combat, et que sur une tombe, donc c'est son propre nom qu'il aperçoit, parce que donc en lieu et place de lui-même, c'est son camarade qui a été enterré. Et ce qui est surtout très très frappant, et Aragon ne cesse de le dire dans ses livres, c'est qu'il dit voilà, je suis mort ce jour-là en fait, sans en avoir vraiment eu conscience. Et il en est allé de même de tous les hommes de ma génération. Nous sommes tous morts en 1918, et depuis, nous n'existons plus qu'à la manière de survivants, de fantômes. Toute l'existence, tout le XXe siècle n'aura eu, dit Aragon, qu'une existence spectrale.
Voilà. Spectrale. Oui, j'ai, en lisant ce passage du livre, j'ai pensé à des poèmes d'Aragon que je trouve absolument magnifique, un de ceux que je préfère peut-être, un des beaux poèmes, sinon des plus beaux, de la langue française, et que vous connaissez sans doute, juste dans le roman inachevé, et justement « La guerre et ce qui s'en suivit ». Voilà, alors vous me permettez d'en lire quelques vers. « Tu n'en reviendras pas, toi qui courais les filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu, quand j'ai déchiré ta chemise, et toi non plus, tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manille, qu'un obus a coupé par le travers en deux, pour une fois qu'il avait un jeu du tonnerre. Et toi, le tatoué, l'ancien légionnaire, tu survivras longtemps, sans visage, sans yeux. Roule au loin, roule train des dernières lueurs, les soldats assoupis que ta danse secoue, laisse pencher leur front et fléchissent le cou, cela sent le tabac, la laine et la sueur. Comment vous regardez sans voir vos destinées, fiancés de la terre et promis des douleurs? La veilleuse vous fait de la couleur des pleurs, Vous bougez vaguement vos jambes condamnées, vous étirez vos bras, vous retrouvez le jour. Arrêt brusque, et quelqu'un crie « Au jus là-dedans !» Vous bâillez, vous avez une bouche et des dents, et le caporal chante au pont de Minocourt. Déjà, la pierre pense où votre nom s'inscrit. Déjà, vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places. Déjà, le souvenir de vos amours s'efface. Déjà, vous n'êtes plus que pour avoir péri. C'est ça, en effet. Hein. C'est à ça qu'il a survécu. Et c'est en ce sens qu'il... C'est une... En effet, une existence spectrale. Bon, écoutez, je vous remercie, Vincent Delecroix et Philippe Forest, pour cette très belle conversation. Et je renvoie à votre livre, Le deuil entre le chagrin et le néant, un dialogue animé par Catherine Portevin et qui est maintenant disponible chez Gallimard en collection Folio. Vous trouverez les références bibliographiques de l'émission sur le site réplique-franceculture.fr où l'émission est téléchargeable pendant un an et réécoutable à vie. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Qui sont les nouveaux contestataires ?» Mes invités seront Gaël Brustier et Alexandre Devecchio. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Olivier Arnay. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.